Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
C'est un documentaire coup de poing et pourtant, il ne raconte rien d'extraordinaire. Juste le quotidien de 9 millions de Français. Des Français que les statistiques qualifient de pauvres parce qu'ils vivent avec moins de 1015 euros par mois. Pauvres de nous, c'est le titre de ce doc qui sera diffusé mercredi à 20h50 sur France 5. La réalisatrice de ce reportage est notre invitée, c'est Claire Lajeuny. Bonsoir.
Bonsoir.
Je vous présente Benjamin Meffre de Pure Média.
Bonsoir.
Benjamin, dans un quart d'heure, notre débat.
Elles sont partout, sur les chaînes historiques, les chaînes à péage, les plateformes vidéo. Depuis plusieurs années, elles dictent leur loi à la production audiovisuelle. Elles, ce sont les séries. Deux festivals leur sont consacrés en ce printemps, à Cannes depuis mercredi, à Lille à la fin du mois. Alors pourquoi ce succès? Combien de temps ça va durer? Quelles sont les tendances en France et ailleurs? On en parlera avec Laurent Marcy qui est à Cannes et avec l'un de ceux qui connaît le mieux ce monde des séries, notre confrère de Télérama, Pierre Langlais.
D'abord, l'actu média de la semaine. 100 000 abonnés de plus chaque mois. Le chiffre n'est pas confirmé, mais selon Libération, ce chiffre, c'est celui de la fulgurante progression de Netflix en France. La plateforme mondiale de vidéos par abonnement aurait dépassé chez nous les 3 500 000 abonnés. Les accords de distribution entre chaînes et opérateurs. Pour M6, la dernière signature manquante est arrivée cette semaine, celle de Free. En revanche, TF1 n'a toujours pas d'accord avec Free et Canal+. TF1 qui a engagé cette semaine une procédure judiciaire pour dénonciation calomnieuse contre Olivier Chiabodo. L'ancien animateur d'Interville avait lui-même porté plainte pour harcèlement moral contre la chaîne et contre l'ancien producteur de l'émission Gérard Louvain qui l'aurait, je cite, « menacé de mort ». Les 6 candidats à la présidence de Radio France seront auditionnés cette semaine par le CSA. Le nom du successeur de Mathieu Gallet pourrait être annoncé dès jeudi. Enfin, c'est demain, lundi, que doit débuter le tournage d'Un avion sans aile, l'adaptation télé du célèbre roman de Michel Bussy, l'histoire d'une petite fille seule rescapée d'un accident d'avion. Au casting de cette production qui sera diffusée sur M6, Bruno Solo, Agnès Soral ou encore Thomas VDB.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
Claire Lajeuny, vous êtes la réalisatrice de ce documentaire qu'on verra donc mercredi soir à 20h50 sur France 5. Pauvre de nous, c'est son titre. C'est une série de portraits de gens très différents qui vivent un peu partout en France, mais qui ont un point commun. Ils vivent tous dans des situations extrêmement précaires. Racontez-nous la genèse de ce projet.
Alors, c'est plus qu'une série de portraits, parce que pour moi, je voulais que ce soit le cycle d'une vie. C'est-à-dire, ça démarre avec un petit garçon qui a 12 ans, et ça finit avec une petite mamie qui a 62 ans. Évidemment, le point commun, c'est qu'ils vivent tous sous le seuil de pauvreté, qui est à peu près de 1015 euros par mois. Certains vivent avec bien moins. La genèse de l'histoire, c'est ce chiffre troublant et alarmant des 9 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté, 3 millions d'enfants, un Français sur 7. Donc je suis partie des chiffres simplement, journalistiquement, en me disant mais il y a des visages, il y a des gens. Comment ils vivent, comment ils survivent, est-ce qu'ils ont encore de l'énergie, est-ce qu'ils combattent? C'était mes premières interrogations.
Alors ce n'est absolument pas un sujet sur les sans-abri, hein, qu'on soit clair. Les personnes que vous avez rencontrées, elles ont un toit, certaines ont même un travail, mais elles ne s'en sortent pas du tout.
Exactement. L'idée, c'était de dire que voilà, c'est le français qu'on rencontre partout, que l'on connaît, avec qui on dîne, qui se bat. Il y a un travailleur pauvre qui se lève tous les matins pour aller bosser et qui n'y arrive pas.
Donc ce ne sont absolument pas des gens qui vivent dans des bidonvilles ou qui sont habillés avec des guenilles, pas du tout. Ce sont des gens comme tout le monde, en apparence.
Justement, c'est ça la question du documentaire. C'est aujourd'hui, être un pauvre, on peut tous être le pauvre de quelqu'un. Du jour au lendemain. Des gens qui sont au RSA, évidemment, qui vivent avec moins de 400 euros, mais aussi des enfants qui sont élevés par des familles qui n'ont pas forcément d'emploi parce qu'ils vivent dans des villes isolées, qui n'ont pas le permis pour se payer, voilà, et qui ne peuvent pas prétendre à un emploi.
Alors, vous avez volontairement choisi des profils et des âges très différents. Il y a une famille recomposée de 6 enfants près d'Angers, qui n'y arrive que grâce au colis du Secours Populaire. Il y a Erwan, qui est parisien. Il y a Marianne, une retraitée de Tourcoing, qui tient le coup grâce à ses enfants. Il y a encore Sébastien, un étudiant qui a pourtant Bac+6. Il a 2 masters et il s'en sort pas. Et depuis qu'il a perdu son travail, Sébastien, il vit avec moins de 7 euros par jour.
Je vis avec une calculatrice en tête, en fait, concrètement. Enfin, tu vois, moi, quand je vais faire des courses et que j'en ai pour 7 euros, je me dis, putain, 7 euros, quoi. Tu vois, ça paraît un peu ridicule, mais 7 euros, avant, quand je travaillais... Je dépensais 20-25 balles en faisant mes courses. Pose pas de questions. 20-25 balles aujourd'hui, mais c'est une vraie fortune. Donc du coup, bah, t'as vite fait les choix. Hein. Ça va être beaucoup de féculents, des pâtes évidemment, du riz, des choses qui te permettent d'avoir mangé, quoi, tout simplement. Donc des fois, tu fais un petit sacrifice. Tu dis, bon allez, je mangerai peut-être un peu moins de pâtes, ou peut-être un peu moins de patates, mais allez, cette semaine, je suis un peu foufou, je m'achète une tablette de chocolat, mais... Ta seule limite, c'était 7 balles, quoi.
Ta seule limite, c'était 7 balles. Il est très attachant, ce garçon de 32 ans.
Bah, il est amer, en fait, finalement. Il a encore des rêves à 32 ans. Il a fait des études. Il est brillant. Il est beau. Et il comprend pas, en fait. Il envoie à peu près 100 CV par mois, sans avoir absolument aucun entretien décroché, quoi. Donc... Il y croit pas lui-même, voilà. Alors effectivement, beaucoup de gens lui disent, mais vas-y, travaille au McDo, travaille à droite, à gauche pour remplir ton frigidaire. Mais ça veut dire qu'il oublie ses rêves, voilà, il prétend à autre chose, donc il s'accroche encore.
Mais il semble prêt à s'y résigner. À un moment dans le documentaire, il dit, s'il faut que j'aille travailler dans un supermarché, je vais le faire.
Ouais, parce que là, ça commence à être vraiment dur pour lui. C'est-à-dire que voilà, le ventre vide, quand on a 32 ans, c'est douloureux, quoi. Voilà, il dit même dans le film, voilà, entre un copain qui me donne un paquet de pâtes et un copain qui me file 10 balles, je préfère un copain qui me file un paquet de pâtes. Parce que la dignité, quand même.
Alors, on va y revenir sur la dignité, parce que c'est un fil conducteur de votre documentaire. Situation de Sébastien, pas très enviable. Pas très enviable non plus la situation d'Isabelle. Elle vit près de Mulhouse. C'est une mère de famille de 54 ans qui survit grâce aux 460 euros mensuels du RSA.
J'avais fait le compte il y a quelques mois. Ça faisait à peu près 17 euros par jour. Dans ces 17 euros, vous devez vous loger, vous nourrir, vous laver, vous habiller, les assurances, les impôts, la taxe télé, la taxe d'habitation, enfin, dans ces 17 euros. Ben, je peux vous dire que j'ai pris mes cahiers dans tous les sens. J'ai pris le BIC, hein. J'additionne, je soustrais. Mais il faut être un super bon comptable. Hein. Il faut arriver à se priver de tout et de se remettre toujours en question en disant « Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce pot de confiture? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette plaquette de beurre? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce savon ?» C'est épuisant, c'est usant, je peux vous dire.
C'est terrible, ces témoignages. Comment vous viviez ça en face à face ?
Bah, je l'avais imaginé, mais c'est sûr que c'est douloureux. C'est douloureux, en même temps c'est un film engagé, militant presque. Moi je travaille beaucoup autour de l'identification, c'est-à-dire que je me suis vue dans ces situations-là. Je me dis que ça peut m'arriver aujourd'hui à mes amis, à mes proches, à ma famille. Voilà. Et du coup j'avais envie de raconter ça, alors, avec beaucoup de respect pour ces gens qui ont osé parler à visage découvert, ouvrir les portes, raconter. Je voulais que ça parle d'argent, sans que ce soit voyeuriste, mais qu'en même temps ce soit concret.
Vous dites que c'est un film militant. Est-ce que vous voulez dire par là que vous voulez envoyer un message selon lequel il faut changer les choses?
Politique.
Un message politique.
Un peu, parce que par exemple j'ai appris des choses. Je ne savais pas que par exemple en étant au RSA on ne cotisait pas. Voilà, le petit Mathéo qui est dans le film, qui ne peut pas aller à la cantine, qui a 12 ans, n'est pas pris en charge par les services sociaux. Je trouve ça alarmant. Ils n'osent pas, ces familles, pousser la porte des services sociaux parce qu'ils ont peur qu'on leur retire leurs enfants. Donc ils préfèrent aller voir le Secours Populaire. C'est quand même fou.
Alors, le dernier témoignage qu'on a entendu il y a deux minutes, donc Isabelle qui vit près de Mulhouse, elle n'est pas totalement inconnue des téléspectateurs, Isabelle. En 2013, elle s'était retrouvée face à Jean-François Copé dans l'émission Des paroles et des actes et elle l'avait un peu bousculée.
Si je suis là ce soir et si je suis fâchée, monsieur Copé, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on me promet que demain sera meilleur et il n'est pas meilleur.
Ce que vous dites, madame, je le comprends d'autant plus que, étant maire d'une ville...
Vous ne pouvez pas le comprendre, excusez-moi, parce que quand on survit avec 470 euros par mois, c'est pas vrai. Vous pouvez pas comprendre.
Et on s'aperçoit que 4 ans après, elle en est toujours dans la même situation, Isabelle.
Ouais, et c'est difficile parce qu'il y a des jours où elle a plus l'énergie. Pourtant, elle en a, je vous assure.
Oui, on le voit dans le documentaire.
Mais voilà, elle a écrit un livre aussi qui raconte en disant « Je ne baisserai plus les yeux » parce que justement, ces gens-là ont tendance à baisser les yeux, ont tendance à se recroqueviller, à se laisser aller. Et ce que j'ai aussi voulu montrer, c'est que c'était des gens qui tentaient de s'accrocher.
C'est une autre des forces de votre film, c'est qu'à part ce point commun évidemment de la pauvreté, tous les témoins que vous interrogez ont un point commun, c'est leur dignité.
Ouais, c'était...
Cette volonté de rester debout malgré tout.
Alors, ils sont déjà comme ça sans caméra, mais c'est vrai que moi, ça a été d'abord... C'est pour ça que je les ai choisis. C'est que même s'il y a des jours où ils n'ont pas le moral, ben, ils résistent. Ils protègent leurs enfants. Il y a beaucoup d'amour dans ces familles. Oui. Ça, c'est aussi le point commun du film. C'est que ça raconte que, voilà, on s'accroche aussi parce qu'il y a de l'amour, même s'il n'y a pas de sous. Et puis, oui, c'était une volonté, moi, de les respecter au plus près et de montrer qu'ils étaient dignes et que chez eux, c'était pas forcément dégueulasse, qu'ils ressemblaient pas à des sans-abri. Et que, voilà, c'est une façon de s'accrocher à la réalité de notre quotidien.
Autre point commun entre ces personnages, alors qu'ils vivent tous dans des conditions extrêmement précaires hein, au quotidien, ils ont tous dans un petit coin de leur tête une lueur d'espoir, quelque chose qui leur met la tête hors de l'eau, j'allais dire.
C'est tout à fait vrai. Et ça, c'est pas moi qui leur ai insufflé, ça fait partie de leur énergie. Voilà, ils y croient. Alors après, il y a des jours où ils l'ont moins. Mmh. Mais effectivement, Mathéo, il se dit, oh bon, pour son anniversaire, il rêve d'avoir une carte SIM comme tous les ados. Mmh. Et puis bon, il a une montre vraiment bas de gamme. Mmh. On sent qu'il est déçu, mais il embrasse quand même sa maman. Et puis il lui dit, bon, je sais que dans les autres familles, c'est un peu mieux, mais bon, je sais qu'on remontera la pente. Il y croit vraiment. Hein.
Il y a quelque chose qui est saisissant dans votre documentaire, c'est que malgré leurs grandes difficultés de vie, ces gens-là, face caméra, ne pleurent jamais.
Alors, ils pleurent, mais volontairement, j'ai coupé beaucoup de scènes que j'ai tournées parce que j'avais pas envie de tomber là-dedans. Voilà, mais ils ont pleuré, oui.
Un mot des enfants. On voit un petit frère et une petite sœur, Mathéo, Maëva, 12 ans, 15 ans. Ils sont incroyables parce que quand on les écoute attentivement, on a l'impression de ne pas entendre des enfants, mais déjà des adultes.
Ça, c'est ce qui m'a le plus troublée. Les enfants, ils m'ont bluffée parce qu'effectivement, ils parlent. Mmh. J'aurais jamais pensé qu'ils arriveraient à avoir ces propos, ce discours. Pareil, quoi. Évidemment, ils sont bien plus mûrs que d'autres.
Mmh. Oui, parce qu'à 12 ans, il y a déjà le Mathéo qui, dès qu'il a un peu d'argent de poche, s'en sert pour la cantine. Ce qui
c'est
est
ça.
Quand même incroyable
pour
à 12 ans
la cantine, oui.
Pour se payer la cantine. Et sa grande sœur, Maëva, si je me souviens bien, qui fait des ménages à droite à gauche et qui donne l'argent à sa maman pour manger.
À 15 ans.
À 15 ans.
C'est ça.
On va écouter un autre extrait, Claire. C'est ce que vous a dit Erwan. Il est kiosquier à Paris. Il travaille debout, 10 heures par jour pour quasiment rien. Là, on vient de lui acheter Le Figaro, 2,40 €.
Alors sur 2,40 €, on gagne environ 24 centimes. Donc il y a 15 ans, 10-15 ans, quand on vendait 60 Figaro la journée, on pouvait gagner sa vie. Aujourd'hui, des Figaro, je vais en vendre 4 dans la journée. Donc 4 à 24 centimes, c'est effectivement un peu le problème. J'ai divisé mon salaire aujourd'hui par 3, puisque effectivement, les ventes de la presse se sont effondrées. Plus de 50% des titres qu'on avait, aujourd'hui, ne se vendent plus. Et ça continue. Malheureusement, l'hécatombe n'est pas terminée.
Voilà, Erwan, il incarne toutes ces professions qui sont en train de mourir, tout doucement.
C'est ça. J'avais très envie dans ce film qu'il y ait un travailleur. Voilà, parce qu'évidemment, beaucoup sont au chômage, au RSA, ne trouvent pas de boulot. Et je voulais absolument que quelqu'un raconte justement cette difficulté de se lever tous les matins en se disant pour qui, pourquoi, comment. Et le combat des kiosquiers était pendant mon enquête. Et du coup, j'ai trouvé ça très intéressant de raconter Erwan. 23 ans de métier et pourtant pour gagner pas beaucoup.
Alors, heureusement, il y a de temps en temps dans cette heure 10 de documentaire des moments d'espoir. Ce qui met du baume au cœur, c'est de savoir qu'il y a une solidarité omniprésente, que ce soit la famille, les amis, évidemment les associations type Resto du Cœur, Secours Pop, qui font un boulot, mais fou quoi.
C'est ça, moi je savais déjà le pouvoir de ces associations, mais alors là, concrètement, par exemple dans la vie d'un enfant, ils sont là à chaque étape de sa vie, c'est-à-dire pour la rentrée scolaire, pour remplir le frigidaire, pour les emmener un tout petit peu loin de leur... galère. Et effectivement, ça m'a convaincue encore plus que ces associations, si elles n'étaient pas là, ces gens mourraient de faim.
Et même le voisinage, hein, parce qu'on voit des voisines qui roulent pas forcément sur l'or non plus, mais qui en échange, tu me fais mes vitres et moi je te fais à manger ce soir. Et voilà, il y a aussi une solidarité locale qui s'est organisée de manière sauvage.
Complètement. Les voisins, les enfants qui aujourd'hui payent pour leurs parents, c'est aussi ça, le cycle de la vie, quoi. C'est-à-dire que ça raconte que si on pousse les enfants à travailler malgré les difficultés du quotidien, ça peut marcher. Et aujourd'hui, si Marianne arrive à remplir son frigidaire, c'est grâce à sa fille qui a bien travaillé à l'école et qui aujourd'hui a une très bonne situation. Donc c'est quand même optimiste.
Merci beaucoup Claire Lajeuny d'être venue nous parler donc de Pauvre de nous, un documentaire absolument inouï, je le répète, qui est diffusé mercredi soir sur France 5.
Merci beaucoup.
Dans un instant, les séries télé. Pourquoi y en a-t-il de plus en plus ?
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon. Jusqu'à 19h30, RTL dimanche soir.
Les dessous de l'écran sur RTL avec Pure Média.
Philippe Robuchon.
C'est tout sauf un hasard. En l'espace d'un mois, la France accueille deux festivals consacrés aux séries. Depuis mercredi, Cannes Séries bat son plein sur la Croisette. On va y retrouver Laurent Marsic dans un instant. Et à la fin du mois, la ville de Lille accueillera Sériemania, double actualité, qui illustre une réalité que plus personne ne conteste. Les séries ont pris le pouvoir, elles dominent tout, que ce soit sur les plateformes de vidéos en ligne ou sur les chaînes de télé classiques. Comment expliquer le phénomène ? Est-il durable ? Quantité veut-il forcément dire qualité ? On va tenter de répondre à ces questions avec Benjamin Meffre de Pure Média et avec notre confrère de Télérama, Pierre Langlais. Bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste journaliste à Télérama, donc l'un des meilleurs connaisseurs, on peut dire, des séries.
Ah, je vous laisse le droit de dire ça, mais ce n'est pas moi qui le dis.
Voilà, membre en tout cas d'une association qui s'appelle l'ACS, Association des critiques de séries. On va à Cannes pour commencer. Laurent Marsic, racontez-nous d'abord, ça ressemble à quoi ce premier Cannes série ?
Ah bah écoutez, plutôt détendu, parce que c'est en plein travaux avec le MIP TV qui va ouvrir demain ici à Cannes, donc pas de smoking, hein, c'est pas le festival de Cannes cinéma, mais tenue chic, créative exigée quand même, avec port de basket autorisé pour tout vous dire. On n'a pas déroulé de tapis rouge, mais un tapis rose sur les marches du palais du festival, où se tient donc à partir de demain l'autre gros événement télé de Cannes, hein, le MIP TV, c'est le grand marché des programmes télé. On croise du coup à peu près tous les héros des séries étrangères dans la ville. Les plus gros producteurs de séries affichent leurs héros sur des tentes à l'extérieur du festival. Il y a 3600 sociétés de production et de télé qui sont présentes, 3800 acheteurs. C'est un des moments importants pour le petit écran. Ça ne concerne pas que la fiction télé, ce sont tous les programmes, hein, le MIP TV. Par exemple, il y a à vendre en format étranger au tableau, vous savez, où les personnalités du monde politique, on en a beaucoup parlé.
Sur C8,
où les personnalités viennent se frotter à des questions d'enfants. Mais là, voilà, le temps fort, c'est Cannes Série, effectivement, ce festival de séries télé dissident, on va dire, qui n'a pour particularité de présenter que des séries étrangères.
Alors, pourtant, hier soir, hors compétition, je le précise, il y a eu projection de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, hein, de Jean-Jacques Hano, très attendu.
Oui, mais qui est considérée comme une série étrangère parce que produite par la MGM, certes diffusée bientôt sur TF1. Alors, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, c'est d'abord le livre, hein, signé Joël Dickers, qui a été adapté en série télé, 10 épisodes. Mm-hmm. La MGM qui produit n'a pas montré de produit fini, mais un montage d'une quarantaine de minutes résumant ces fameux 10 épisodes dans le rôle d'Harry Kéber, l'ex-docteur Mamour de Grey's Anatomy, Patrick Dempsey, le tout filmé par Jean-Jacques Hano, pour le coup, français aussi, voilà.
Alors, Pierre Langlais, Télérama, on va pas entrer dans cette guerre des festivals, j'en ai donné deux, mais vous me disiez en antenne qu'il y en a beaucoup plus que ça, il y en a au moins 7 ou 8. Qu'est-ce qui se passe avec les séries dans le monde en ce moment ? Pourquoi y en a-t-il tant ?
Parce que ça marche, parce qu'il y a eu depuis, allez, maintenant presque 20 ans, une révolution sérielle, une nouvelle révolution sérielle qui est partie des États-Unis et qui s'est répandue à travers le monde. Ça a commencé, si vous vous souvenez, avec 24 heures chrono, ces séries-là, Les Experts, et puis après on a eu Le Mentaliste, Castle, tous ces gros cartons grand public qui sont accompagnés de plein de séries du câble, des choses hein, comme Les Sopranos, comme Six Feet Under, pour ceux qui se souviennent, Oz, qui était vraiment là, à la fin des années 90, une des pionnières. Et donc, on a eu qualitativement des choses de mieux en mieux, quantitativement, et on s'est retrouvé avec ce que les Américains appellent aujourd'hui la peak TV, et donc la TV de peak, où il y a de plus en plus de choix. Vous vous rendez compte, il y a eu plus de 400 nouvelles séries qui sont arrivées, et donc on se retrouve presque noyé dans ces séries-là, pour le pire, souvent, pour le meilleur aussi, mais il faut les trouver.
Benjamin ?
Quand même, là, on atteint des niveaux de production et de nombre d'acteurs totalement inédits. Comment cela est-il possible de produire autant de séries ? Alors que j'imagine que même toi, Pierre, tu n'es pas en mesure de regarder toutes les séries qui sortent tous les jours.
Non, j'ai pas fait le calcul exact, mais il faudrait que je mène trois vies à la fois sans dormir. Et encore, ça serait juste pour voir les Américaines, les Anglaises, les Françaises, les Danoises et les Israéliennes, qui sont en gros celles qu'on voit le plus chez nous. Comment expliquer ça ? Bah, c'est un marché, il y a de l'argent, il y a de plus en plus de diffuseurs. Il y avait les chaînes traditionnelles, se sont ajoutées des chaînes payantes. Et maintenant, les plateformes, hein, les fameuses Netflix, Amazon, les Américains en ont encore plus. Hulu, chez nous, on a Canal Play. Enfin voilà, il y a de plus en plus de façons de voir les séries. Et je parle même pas de toutes les web-séries, de ce qui se fait sur les YouTube, sur toutes ces choses-là. Donc en fait, il y a une vague permanente et tout le monde veut sa part du gâteau. Et ça fait ce que j'ai appelé tout à l'heure la peak TV, donc cette explosion du nombre de séries.
Est-ce que vous diriez, Pierre Langlais, que ce sont le succès des séries télé qui a engendré le succès des Netflix et Amazon Vidéo ? Ou c'est l'inverse ? C'est grâce à ces plateformes qu'il y a eu le succès des séries ?
Non, parce que le succès des séries était là avant que les plateformes s'en mêlent. Clairement, comme je vous le disais, c'est la fin des années 90, début 2000, en tout cas pour ce qui est du public français. Même s'il ne faut pas oublier que dans les années 60, il y avait plein de gens qui regardaient des séries à la télé française, c'est juste qu'on a l'impression que c'était une autre époque.
Oui, on appelait ça feuilleton.
Voilà, exactement, mais il y a des gens qui ont regardé Belphégor, il y a des gens qui ont regardé Les Brigades du Tigre, enfin voilà, il y a eu plein de choses. On a eu souffert en France dans les années 80 et début des années 90, mais le phénomène, il est vieux, il a plus de 50 ans. Maintenant, Netflix a changé la façon dont les gens regardent les séries. Mais moi, j'ai plein d'interlocuteurs qui ne regardent plus que Netflix. avec une petite dose d'Amazon qui cherche sa place en France, mais la télévision linéaire, comme on dit, celle que vous allumez devant votre canapé, elle se fait du mauvais sang, parce que voilà, aujourd'hui, Netflix, c'est quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez, et puis il y a tellement de choses dessus que vous n'allez pas tout voir, et vous avez suffisamment pour vous occuper.
Essayons d'avoir une vision globale. Les séries françaises dans le monde, aujourd'hui, ça représente quoi ? Une part importante ? Une part négligeable ?
Non, dans le monde, une part encore négligeable. Alors là encore, j'ai pas de chiffres à vous proposer, mais ça va mieux. Les exportations ont grimpé de manière assez conséquente, je crois, ces dernières années. D'un point de vue critique, les étrangers s'intéressent de plus en plus à nos séries. Nos festivals n'y sont pas pour rien. Il y a une dynamique qui place la France comme un joueur dans le jeu d'échecs international de plus en plus pertinent. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire que la production française est meilleure qu'il y a quelques années.
Vous diriez qu'on était meilleur il y a quelques années qu'aujourd'hui ?
J'ai eu des années plus glorieuses, moi. En tout cas, la saison qu'on est en train de vivre en ce moment, moi, je me souviens de l'époque où il y a eu Ainsi soit-il et sur Arte, les revenants sur Canal+ qui sont arrivés. Il y avait une dynamique, il y avait une envie, il y avait un appétit de séries françaises qui était très fort. Là, depuis septembre dernier, j'ai pas vu beaucoup de séries françaises où je me suis dit, ouais, ça c'est chouette, ça vraiment, ça casse les codes, ah ça c'est une surprise. J'ai l'impression que les bonnes choses, c'est 10%, c'est le Bureau des légendes, c'est des séries qui étaient déjà là avant.
Je voudrais juste me permettre une chose, parce que j'ai rencontré il y a quelques heures Mathieu Béjot, qui est le délégué général de Télé France International. Alors, c'est à travers eux en fait que circulent ces séries françaises qui sont exportées à l'étranger. Et ce qu'il me disait en fait, c'est que le regard des étrangers sur les séries françaises lui dit que la France est un pays qui n'a pas à rougir de sa place au niveau mondial. Après, les étrangers ont un regard sur la série française qui est bien particulier, c'est-à-dire qu'en tirant le trait, hein, vraiment, ils nous voient encore avec le béret et la baguette de pain sous le bras. Donc, ce qui marche à l'étranger, ce sont par exemple des séries comme Commissaire Magellan, je ne sais pas si ça vous parle.
Commissaire Magellan, créé par
Laurent Mondy, ça date de 2009, c'est diffusé sur France 3 avec Jacques Spiesser. Ça marche très bien à l'étranger. Section de recherche, le TF1 marche très bien à l'étranger. Le Bureau des légendes, effectivement, fonctionne très bien. Mais ce que viennent chercher les étrangers chez nous, ce sont les particularités. C'est ce qu'ils font dans tous les pays où ils viennent acheter. Ils viennent chercher les particularités de chaque pays. C'est pour ça qu'une série comme Marseille a été vue par les téléspectateurs français comme étant une série plutôt moyenne. Elle cartonne à l'étranger, elle cartonne dans les pays d'Amérique du Sud sur la plateforme Netflix. Ouais. Et Netflix et ses plateformes permettent aujourd'hui aussi aux créateurs français de pouvoir être vus à travers le monde. Pour le coup, c'est une bonne opération pour les producteurs, moins pour les chaînes de télé.
Et pour le tourisme français,
ouais, exactement.
Ouais. Je voudrais revenir sur un point que vous avez abordé tous les deux, c'est qu'à force de vouloir faire original, les séries arrivent dans des thèmes, des niches extrêmement pointues. J'ai vu cette semaine aux États-Unis que les principaux studios américains se sont mis d'accord pour imposer un nombre minimum de morts, de personnages tués par saison. Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors ça, c'est mon poisson d'avril.
Ça veut dire que je suis tombé dedans.
Ouais.
Ah bah
c'est exactement ce que j'ai posté.
Eh bah bravo.
C'est ce que j'ai posté sur mon blog et sur Télérama. Non, c'est une bêtise, mais c'était pour justement me moquer du fait qu'il y a une forme de surenchère parce que comme il faut se débarquer, il y a des séries qui vont sans cesse tuer des personnages pour pouvoir faire le buzz, comme on dit. Et plus vous tuez de personnages, plus vous allez avoir d'excuses de faire des tweets et des Facebook et des trucs dans tous les sens en disant hey, mais devinez qui va mourir cette semaine. Ouais. Ce qui n'est pas le but d'une histoire, à mon sens.
J'ai vu. Par contre, ça, je pense pas que ce soit un poisson d'avril. Il y a un public enfant qui regarde les séries.
Oui, c'est un public à capter. Alors nous, on a tendance à dire, oui, il va regarder des dessins animés, etc. Mais il y a une vraie demande. Moi, quand je fais des interventions dans les bibliothèques, ces choses-là, les pères de famille, les mères de famille viennent me voir en disant, qu'est-ce que je regarde avec mes enfants ? Parce que c'est bien gentil, Game of Thrones, mais c'est un peu brutal pour mon fils de 10 ans. Et du coup, il y a un marché à saisir. Et là encore, Netflix est en train de faire fort, puisqu'il y a Perdu dans l'espace, qui est un grand classique de la télé américaine des années 60. Une grande aventure spatiale avec toute la famille embarquée sur une planète inconnue, etc. Papa, maman, les trois enfants. Et il y a un marché à saisir que Netflix, avec Stranger Things d'une part, avec cette série-là et avec quelques autres, essaye de capter. Et il y a quelque chose qui est en train de se jouer, c'est qu'on dit en ce moment que les enfants ne regardent plus la télévision, mais seulement leur tablette. Et il y a un vrai enjeu qui est en train de se faire là, c'est quelles belles histoires je peux raconter qui puissent être regardées non seulement par les enfants, mais par toute la famille.
S'il fallait retenir quelques noms de très bonnes séries françaises qui sont attendus dans les mois qui viennent.
Moi, les projets qui m'intriguent, c'est plutôt ceux qui reviennent. C'est le retour du Bureau des légendes sur Canal. Mmh. C'est ce que fera 10% pour sa saison 3.
Il y a Vernon Subutex, d'après...
Alors là, on a encore une petite attente, parce qu'ils sont en tournage, mais effectivement, c'est à voir aussi. Donc, il y a certainement des choses ambitieuses qui se font, mais il y a aussi beaucoup de choses très frileuses. Oui. Trop de meurtres, trop de polars, trop de ces histoires qu'on a déjà vues 100 fois. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, si on ne tue pas quelqu'un, quelqu'un dans une série, ça ne fera pas d'audience. Je suis sûr qu'il y a des très belles histoires sans mort et qu'on peut les voir.
Et puis j'ai vu qu'elle est arrivée sur OCS très bientôt, une série qui s'appelle Nu.
Oui.
Où les gens sont tout nus.
Voilà, absolument. Ouais. Dans
permanence.
Un monde futuriste où pour éviter le terrorisme, oui, la violence et toutes ces choses-là, on a contraint les gens à être tous à poil. Il y a quand même un polar. Il y a encore une histoire de polar derrière tout ça, parce que le héros est flic.
Ouais.
Mais tout le monde joue littéralement nu. Hein. Vous avez du full frontal, comme disent les Américains. Ouais. Donc,
c'est quand même interdit au moins de 16
totale.
Ans.
Voilà.
Exactement. Bon, enfin, je ne sais pas où nous mènera l'originalité des séries dans les années qui viennent, mais effectivement, on est parti sur une pente là, assez glissante. Merci beaucoup Pierre Langlais Télérama d'être venu nous éclairer sur ce monde des séries à l'occasion des festivals qui se multiplient. Merci Benjamin Meffre, Pure Média. On se retrouve dimanche prochain. Tiens, à propos Benjamin, dimanche prochain on parlera d'une série française avec notre invité, ce sera Marie Gilin. Oui. C'est une série qui s'appelle Speak Ring qui arrive sur France 2 le lundi qui suit. Voilà, on la recevra. Merci Laurent Marsic.
N'est de rien.
Et bonne fin de festival à Cannes.
Merci.